et c'est le journal de l'écho d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le décryptage écho s'arrête ce matin sur les salaires des PDG du CAC 40 à l'occasion d'une note de l'ONG Oxfam parue ce matin et qui s'intéresse aux écarts de rémunération entre ces grands patrons et leurs salariés, d'où il apparaît que les premiers ont gagné 130 fois plus que les seconds en 2022, un écart en forte hausse ces dernières années. Souvenez-vous, il y a 2 ans, le salaire du patron de Stellantis, Carlos Tavares, avait conduit Emmanuel Macron à qualifier de choquante et excessive sa rémunération de près de 20 millions d'euros. Eh bien, en 2023, rien n'a changé. Le conseil d'administration du constructeur automobile lui a octroyé 36,5 millions d'euros. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous.
Ces écarts entre salaire des personnels et salaire des patrons s'expliquent par le mode de rémunération des dirigeants.
Oui, ils ont pour particularité d'être essentiellement payés en salaire variable. Selon les chiffres d'Oxfam, 27% de leur rémunération à peine est fixe. Le reste varie en fonction des performances de l'entreprise sur divers aspects. Prenons le cas de Carlos Tavares à Stellantis par exemple. Son salaire fixe, 2 millions d'euros, est stable depuis plusieurs années. Il ne représente que 7% de ses revenus. Le reste, c'est 11 millions récompensant le très haut niveau de marge du constructeur, 10 millions liés aux ventes de voitures électriques, 2 millions pour sa retraite, 3,7 millions de stock options débloqués et un ensemble d'autres primes incitatives. Carlos Tavares profite du fait que Stellantis soit devenu un monstre de rentabilité avec 18,6 milliards d'euros de bénéfices nets l'année dernière. Les grands patrons se nourrissent des performances du CAC 40 qui ne subit pas l'inflation et dont les bénéfices ont bondi de 8% l'année passée, bien loin des 0,9% de croissance enregistrée à l'échelle nationale. Pour autant, cela ne justifie pas tout, notamment les augmentations à deux vitesses. Les salariés ont été 3 fois moins augmentés que leur PDG depuis la pandémie. Surtout, selon Oxfam, la moitié des primes sont liées à des performances financières de court terme, contre 5% pour l'atteinte d'objectifs climatiques par exemple, une conception de la performance qui apparaît donc comme très restrictive.
Et le choix de ces critères, Valentin, reflète l'intérêt des actionnaires, car eux aussi profitent des très hautes rémunérations des dirigeants.
Oui, car une entreprise cotée en bourse est le lieu d'un rapport de force entre 3 parties, le PDG, le conseil d'administration et les actionnaires. Ces derniers choisissent le conseil qui se charge, lui, de la stratégie et de la sélection du dirigeant. Les actionnaires décident aussi de la rémunération, mais souffrent de ce qu'on appelle une asymétrie d'information. Le PDG en sait toujours plus qu'eux sur l'état de l'entreprise. Il peut favoriser la croissance à long terme plutôt que le versement de dividendes. Et c'est encore pire si le conseil d'administration regroupe des proches de ce dirigeant et ne le contrôle pas vraiment. Un actionnaire, notamment s'il est peu puissant, peut vouloir contraindre le PDG à être performant en liant son destin à celui de l'entreprise et en augmentant sa part de salaire variable. Une stratégie qui n'est pas toujours payante, comme le rappelle Olivier Gauthier, sociologue à Sciences Po Paris et directeur de recherche au CNRS.
Ça peut paraître indolore, mais à long terme, ce n'est pas forcément la forme la plus efficace. Il y a toujours, en quelque sorte, une ambiguïté quand c'est le PDG qui demande « incitez-moi, incitez-moi », plus que les actionnaires qui sont en train de pousser à l'incitation. Ils adoptent une structure de rémunération qui, formellement, semble être dans l'intérêt des actionnaires, mais qui ne l'est pas forcément.
Les salaires pharaoniques de Carlos Tavares et de ses confrères s'appuient aussi sur l'incertitude quant à la plus-value réellement apportée par le dirigeant et sur un effet de miroir déformant. Chacun ayant accès à la rémunération des autres patrons, il va être tenté de négocier un salaire juste au-dessus de la médiane, ce qui génère à terme de l'inflation. Des coûts importants pour les entreprises et pour les salariés, mais où dirigeants et actionnaires semblent tous les deux retrouver leur compte. Oxfam relève qu'en 2022, 76% des bénéfices des entreprises du CAC 40 avaient été versés sous forme de dividendes.
Valentin Gris, merci. On retrouve votre décryptage écho à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Oui, il est question d'un autre grand patron français soupçonné, lui, d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles. Arnaud Lagardère a été mis en examen par des juges d'instruction financiers pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses, achat de vote, abus de biens sociaux et abus de pouvoir et non dépôt de compte. Une information judiciaire avait été ouverte par le parquet national financier en avril 2021 sur la base d'une plainte du fonds Amber Capital, d'un signalement de l'autorité des marchés financiers ainsi que d'un signalement du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Le Haut Conseil, un autre de stabilité financière, celui-là, l'instance qui donne des préconisations sur les crédits immobiliers pour limiter le surendettement des ménages. Il devait être réformé via une proposition de loi du député Renaissance Lionel Causse qui a finalement jeté l'éponge hier ministère ait retiré son texte. L'idée, c'était de modifier le fonctionnement de ce HCSF en y ajoutant notamment deux membres issus du Parlement pour faciliter l'octroi de crédits immobiliers et tenter de limiter la crise du logement. Mais l'élu a estimé que des amendements adoptés en soirée avaient trop dénaturé sa proposition. Le coût des crédits immobiliers est entre-temps un peu reparti à la baisse au premier trimestre. Et puis 2000 emplois supplémentaires en CDI en France d'ici la fin de l'année, annonce d'Amazon hier, qui souhaite porter le total de ses effectifs français à 24 000 salariés. Amazon a du mal à stabiliser ses effectifs dans les entrepôts logistiques, notamment où 9 salariés sur 10 ont moins de 5 ans d'ancienneté. Selon un rapport d'un cabinet indépendant transmis au syndicat, en 2022, les CDI ayant quitté Amazon France l'ont fait à 31% en raison d'une rupture de période d'essai, 38% car ils ont été licenciés, 25% parce qu'ils ont démissionné et 3% avec une rupture conventionnelle.